storia infinita con te, che sei diventata la mia lei di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brividi.
Ah là là, franchement, on brille tous mes plaisirs. Je voulais le refrain de Eric Ramazzotti, mais il est trop tard. Merci beaucoup Arnaud et Jean-Marie Larieux d'avoir été avec nous pour parler du roman de Jim. Il est en salle, on peut donc aller le voir. C'est un plaisir de l'évoquer. On peut aussi lire le roman de Jim, paru aux éditions POL. Merci beaucoup Pierrick Bailly d'avoir été avec nous. Au son aujourd'hui, c'était Nicolas Bonnet, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui se réécoute sur franceculture.fr. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Marianne Chassor, Oriane Mignot et Alexandre Alaï-Begovic. Très bel après-midi sur France Culture.
Vous écoutez France Culture. Question du soir, c'est 1h30 de débat, d'analyse, de découverte pour mieux saisir l'actualité.
Quentin l'a fait.
Pour mieux appréhender aussi les idées nouvelles et les bouleversements de notre monde. Alors rendez-vous chaque jour, chaque soir, de 18h30 à 19h.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Après des élections législatives mouvementées, émotion et politique est notre sujet en cette semaine de rentrée.
Géraldine Mühlmann.
Nous évoquons la colère selon les Grecs anciens, la peur selon Thomas Hobbes, mais encore l'empathie si précieuse et si fragile qui intéresse beaucoup la philosophie contemporaine.
Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 16h sur France Culture, j'étais en train de dire que c'était trop court ce book club, mais j'en profite pour dire qu'on peut réécouter un entretien avec vous, les frères Larieux, au micro de Zoé, sur franceculture.fr. À vous Natacha Triou.
Bonjour Marie.
Bonne émission.
Bon après-midi.
La science CQFD, Natacha Triou.
C'est l'un des sites préhistoriques les plus impressionnants au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le cercle de monolithes de Stonehenge, en Angleterre. Il révèle un nouveau secret. À environ 150 km de Londres, ce monument du deuxième millénaire avant notre ère a été un point focal pour les hommes et les femmes du néolithique et de l'âge de bronze. Un lieu de cérémonie, de rencontre, où l'on se rassemblait pour faire la fête. Son énigmatique dalle centrale fait la une de la revue Nature. Sa pierre d'autel, semi-enfouie au centre du cercle de pierre, viendrait d'Écosse, à 800 km de là. Comment ce bloc de 5 mètres et 6 tonnes a-t-il pu traverser toute l'Angleterre ? Stonehenge, la dalle masquée. Rebecca Pic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et chercheur à l'INRAP, spécialiste de l'âge du bronze et du premier âge du fer. Et Cyril Marcigny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue chercheur à l'INRAP et spécialiste de l'âge du bronze. Merci à vous deux d'être avec nous en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être toujours là au rendez-vous et pour cette nouvelle et troisième saison de CQFD. Alors comme toujours, n'hésitez pas à nous écouter tout en nous suivant sur X, ex-Twitter, sur notre fil, on y publie chaque jour toutes les sources et les ressources qui ont nourri cette émission. Et c'est Noémie Maguet de Saint-Vulfranc qui s'occupe de ce live tweet qui commence tout de suite. Alors comment a évolué ce site à travers les époques? Quelle civilisation a-t-il connu? Et que nous raconte cette découverte sur l'organisation politique des îles britanniques au néolithique? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à toutes ces questions. Pour commencer, on vous fait la visite avec notre archive du jour. Nous sommes en 1959.
À quelque distance d'Emsbury, en Angleterre, dans la vaste plaine de Salisbury, surgit hors du temps un monument qui est le témoin des plus anciennes civilisations de l'Europe, le tertre de Stonehenge, connu dans le pays sous le nom de Danse des Géants. Ce monument, qu'on peut qualifier de mégalithique, date du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, mais il n'a rien de commun avec les dolmens et les menhirs. C'est en fait une sorte de cromlech, une succession de blocs de pierre taillés régulièrement, disposés en cercles concentriques, dont le plus grand diamètre mesure 25 mètres. une grande pierre centrale est appelée autel, et à une certaine distance, en dehors de l'enceinte, exactement à 78 mètres du centre, se trouve une borne que frôle le soleil couchant au solstice d'été. Toutes les pierres de Stonehenge sont placées dans un ordre rigoureux qui est fonction de la position du soleil dans le ciel aux différentes époques de l'année. Ainsi, au solstice d'hiver, les rayons du soleil passent à travers un ensemble de trois blocs recouverts d'une dalle avant de frapper l'autel central. On en a conclu qu'il devait s'agir d'un temple solaire, sans toutefois pouvoir affirmer quoi que ce soit sur ce sujet, car les documents historiques sont peu abondants. On est obligé de procéder par recoupement pour se faire une idée de l'emploi de ce curieux monument.
Voilà un extrait de l'heure de culture française sur la RDF en 1959. Rebecca Pic, on entendait, hein, il n'a rien de commun avec les dolmens et les menhirs. Quelle est la particularité de ce site ?
Ce site est complètement unique, unique en Grande-Bretagne, puis unique en Europe. C'est un site monumental, des pierres dressées avec des linteaux, un site très grand qui se dresse sur une plaine, sur la plaine de Salisbury, et qu'on voit vraiment de très loin. On peut l'approcher, on le voit de plusieurs kilomètres. Et donc, c'est vraiment un monument qui domine le paysage.
Cyril Marcigny, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive. Une belle prononciation bretonne, vous me disiez.
Ah, Cromlech, c'est pas mal. Ouais, je prononce Cromlech, je suis pas breton. C'est un peu plus vieux que ce que disait le journaliste. On est plutôt au troisième millénaire, donc c'est un monument qui est un peu plus vieux que ce qu'il envisageait. Et effectivement, c'est un monument qui est unique, même au niveau mondial, hein, faut pas hésiter. Hein. Il y a pas d'équivalent. Oui, ce qui domine, c'est sa position dans le paysage. Le paysage, en fait, est mis en œuvre. Ben, il était déjà là avant, mais le monument a été mis à une place particulière qui permet d'être vu d'un peu partout. On est sur un grand plateau très vaste. C'est pour ça que c'est pas un site seul. Enfin, c'est un site avec un environnement très riche. Il y a énormément de monuments autour. C'est très complexe, en fait, autour de Stonehenge.
Oui, vous avez tous les deux eu la chance hein, de vous rendre sur ce site, Rebecca Pic. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu mieux ? Voilà, qu'est-ce qu'on ressent, à quoi ça ressemble quand on est sur place ? Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux des contemporains ?
Quand on se rend aujourd'hui, on arrive dans le parking et on ne voit pas le monument du parking. On est vraiment en contrebas. Et c'est au moment où on peut se diriger, on monte un petit peu et tout d'un coup, on voit ce monument, en effet, sur une butte. C'est très prominent et on a ce moment de découvert, en fait, découverte du monument. Et quand tu arrives sur la plaine à côté, c'est assez venteux, c'est très ouvert, c'est un paysage qui est aujourd'hui très ouvert. Et on voit les champs un peu partout, la plaine, quelques maisons à droite à gauche. Finalement, un endroit où il y a assez peu d'habitations. Et donc, comme disait Cyril, vraiment l'endroit qui domine ce paysage.
Cyril Marcigny.
Oui, c'est la visite virtuelle de Rebecca est parfaite. Ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on appelle l'avenue. En fait, il y a un cheminement qui permettait à l'époque de rejoindre Stonehenge à partir de la rivière Avon. Et ça, on le voit dans le paysage parce que même ce cheminement, en fait, a été disposé sur un mini-relief topographique. Donc, il y a vraiment une mise en scène paysagère qui est très intéressante, qui avait déjà été repérée par les chercheurs antiquaires du 19e siècle, mais qu'on perçoit très bien quand on est là-bas.
Mais c'est un monument d'ailleurs qui est assez étonnamment hein, très bien conservé dans le temps.
Oui, parce que déjà il a été utilisé pendant longtemps, donc jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est encore un monument sanctuaire. Et par la suite, je pense qu'il y a eu du respect autour de ce monument. Je ne sais pas ce qu'on pense, Rebecca qui est anglaise. Mais...
Oui, c'est un monument qui existe dans la culture anglaise, britannique depuis toujours. Je pense que les premiers écrits sur le monument date du 12e siècle, pardon. Et donc on peut vraiment retracer son histoire à partir de ce moment dans les écrits des érudits, dans l'art aussi. Et puis après, par la recherche scientifique qui commence vraiment, on va dire, 17e, 18e siècle, où on commence vraiment à s'intéresser du côté scientifique de Stonehenge.
Cyril Marcigny, on n'a pas de traces écrites avant le 12e siècle ?
avant le, on a un tout petit texte de Diodore de Sicile hein, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui décrit en fait, on suppose que c'est Stonehenge parce que du coup c'est pas assez précis, mais il parle d'une île lointaine chez les Hyperboréens où un monument circulaire est vénéré et où les populations locales accrochent des carcasses d'animaux. Voilà, pour beaucoup d'archéologues, j'en fais partie, on pense que c'est Stonehenge.
On va parler évidemment hein, de la chronologie du site de Stonehenge, mais d'abord peut-être nous parler de quoi, à quoi ressemble la Grande-Bretagne du Mésolithique, puis du Néolithique, pour se rendre compte un peu du contexte historique.
On rentre dans l'Holocène, donc on a un paysage qui est à peu près le même qu'actuellement, quoi, un peu plus boisé. Au Mésolithique, on est déjà sur une plaine, très probablement. Le site est utilisé au Mésolithique. On a un très gros site qui a été fouillé il y a plusieurs années déjà, qui est un peu éloigné de Stonehenge, mais qui participe en tout cas de l'ensemble, puisque les Anglais l'ont interprété comme un sanctuaire mésolithique. Hein. Dans le détail, c'est pas forcément aussi clair que ça, mais en tout cas, l'histoire est belle. Au Néolithique, par contre, là, on a beaucoup plus d'éléments et on sait qu'on rentre dans un domaine vraiment sanctuaire puisqu'on a un monument funéraire hein, qui date du Néolithique final qui s'installe sur la plaine qu'on appelle un cursus qui est un très très long monument allongé qui a plusieurs fonctions, sûrement des fonctions funéraires, ça on en est à peu près sûr, mais aussi des fonctions de déambulation, des choses comme ça. Donc on est vraiment sur un espace sanctuaire et à partir de ce monument, en fait, on va avoir toute une série de monuments qui vont venir s'implanter sur le site jusqu'au Henge qui va donner naissance à Stonehenge. Et le Henge, il date de autour de 3000-2900 avant notre ère.
Rebecca Pic, justement sur cette Grande-Bretagne aussi du Néolithique, à quoi ressemble-t-elle?
Je pense qu'il faut imaginer une Grande-Bretagne avec des communautés petites communautés, peut-être des habitats, des fermes. Les gens vivaient ensemble et ils se connaissaient d'une ferme à l'autre. Donc il y avait cette notion déjà de communication, de connectivité entre les différents habitats. Et on peut donc imaginer autour de Stonehenge tout un ensemble, toutes différentes communautés.
Cyril Martignac.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on connaît peu le néolithique anglais. Il y a pas eu tant de fouilles que ça, mais oui, on est sur une population rurale, hein, voilà, essentiellement de paysans. Donc, on a des petites unités, ce qu'on appellerait des fermes maintenant. Hein. Les archéologues sont plus prudents pour mettre ce terme derrière ces établissements, mais ce sont des fermes hein, qui parsèment le paysage, hein, créant une mosaïque de gens qui sont en lien. Et là, avec Stonehenge, on sait qu'en plus, ils peuvent être en lien sur de très grandes distances. Quoi.
Alors, c'est pas un monument qui a été construit en une seule fois. C'est vers 7000 ans avant notre ère hein, qu'on voit la première activité autour de Stonehenge, hein, Cyril Marcigny.
Oui, alors 7000 ans, c'est le Mésolithique. C'est le site dont je vous parlais, qui est un petit peu à l'écart. Après, il y a un grand hiatus jusqu'à 3200 avant notre ère, où là, le cursus va s'implanter. Et à partir de là, on va avoir un henge. Un henge, c'est un grand enclos circulaire qui fait 100 mètres de diamètre, hein, avec un fossé extérieur, qu'on voit encore dans le paysage. Hein. Et c'est dans ce henge, les henges, on en connaît plusieurs en Angleterre, hein, dans ce henge que va s'implanter le Stonehenge qu'on connaît avec ses pierres. Et le Stonehenge tel qu'on le voit maintenant, c'est une architecture qui date du milieu du deuxième millénaire, mais dont l'histoire commence autour de 2800-2700 avant notre ère.
Rebecca Pic, pour poursuivre justement, hein, rentrer un peu plus dans le détail de cette chronologie de la construction de ce site.
Donc en fait, donc comme disait Cyril, on commence donc avec un fossé circulaire d'une centaine de mètres de diamètre, un petit talus, et a priori la première construction est un premier cercle, soit de pierre, soit de poteaux en bois, mais qui ont aujourd'hui disparu. Et en fait, tout ce qu'on a retrouvé sur ce tout premier monument est les trous où étaient poser les pierres ou les poteaux. Donc en fait, ces trous s'appellent les Aubrey Holes. Et donc, ça a été démantelé. Et puis après, on a installé le monument qu'on voit actuellement.
C'est ça, vers 3000 avant notre ère, c'est là, à ce moment-là, que les premières pierres arrivent.
Voilà, c'est ça. Et les premières, alors il y a des pierres qui sont évidemment locales, d'origine locale, mais il y a aussi des pierres qui viennent d'ailleurs. Et ce sont des pierres qui viennent du sud-ouest du Pays de Galles, des Priscilly Hills. Et donc qui ont été transportés un peu plus de 200 km pour arriver à Stonehenge et être utilisés dans la construction du monument.
C'est ces fameuses pierres qu'on appelle les Blue Stones ?
C'est ça, exactement, Blue Stones.
C'est ça, pierre bleue pour celles qui viennent du Pays de Galles et sarsène pour les pierres locales, mm-hmm. qu'on voit encore dans le paysage d'ailleurs, hein. Il y a encore des pierres bleues qui traînent par-ci par-là. Ce sont des grès tertiaires qui sont qui affleurent en fait sur le site.
Je continue. Voilà cette chronologie. Hein, la plus grosse pierre de Sarcène qui donne justement à Stonehenge sa silhouette caractéristique. Ça a été érigé vers donc 2500 avant notre ère. Et puis c'est vers 1500 avant notre ère qu'on voit que l'influence de la région de Stonehenge commence à décliner. C'est bien ça, Rebecca Pic?
Oui, en fait, il y a eu plusieurs aménagements du site entre-temps. Et puis, d'abord, il y a eu un premier petit cercle à l'intérieur avec les bluestones. Ça a été démantelé pour créer un cercle un petit peu plus grand. Il y a donc l'installation des pierres, donc les très grandes pierres qu'on voit actuellement. Et puis, petit à petit, visiblement, ça se décline, en effet, à un moment donné. Et on voit encore des installations. Par exemple, il y a des crémations. Aussi dans autour du monument qui date de cette période, mais a priori l'activité en effet est un petit peu moins soutenue qu'elle était au début de l'âge du bronze.
Oui, ça retombe autour de ce qu'on appelle l'âge du bronze moyen.
Ouais.
C'est un phénomène intéressant parce qu'en fait on connaît différents sanctuaires comme ça supracommunautaires, hein, des sanctuaires où on se déplace d'assez loin pour les voir, comme ceux qu'on connaît en Allemagne à Pommelte ou Schönbeck, et ils ont la même chronologie, c'est-à-dire qu'ils sont créés à la fin du 3e millénaire et ils vont s'effondrer, ils vont perdre en superbe au cours du milieu du 2e millénaire. Donc il y a quelque chose qui se passe à l'échelle de l'Europe à cette époque-là.
Mais d'ailleurs, justement, pour reprendre un peu de recul, par rapport à d'autres mégalithes de cette époque, dans l'énorme collection de mégalithes qu'on a d'ailleurs sur cette planète, vous avez dit Stonehenge, c'est unique, mais quelle est, si on doit parler de sa spécificité à vos yeux, Cyril Marcini?
Eh bien, il n'y a plus de mégalithes à cette époque-là. C'est déjà une spécificité, puisque la plupart des mégalithes datent du 4e millénaire, 5e, 4e, et au 3e millénaire, surtout à la fin du 3e millénaire, on a quasiment plus de construction mégalithique, donc c'est un exemple qui est assez intéressant à ce titre, et surtout l'assemblage qui a été fait à Stonehenge, avec ces trilithes assemblés, c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. C'est une tradition qui vient du bois. Voilà. Donc, il y a des monuments en bois qui pouvaient avoir la même physionomie. Mais là, ils ont utilisé les fameuses pierres de Sarcène ou les pierres bleues qui sont faciles à travailler pour travailler ces pierres comme du bois et faire ces fameux trilithes qui sont pour le coup uniques.
Rebecca Pic?
Oui, il y a plusieurs autres monuments autour de Stonehenge. Il y a Woodhenge, par exemple, qui est assez connu. Amesbury aussi. Et donc, ce sont également, notamment pour Woodhenge, donc des cercles de poteaux où il y avait des poteaux en bois, des cercles de poteaux dans lesquels étaient installés des poteaux en bois. Et on pense, en effet, à une architecture en bois très similaire de Stonehenge, avec les poteaux verticaux et probablement une construction par-dessus.
Alors l'altar stone, hein, la pierre de l'autel, hein, ce bloc de grès de 6 tonnes, de 5 mètres sur 1 mètre, est donc la plus grande des pierres bleues. Par quelle méthode a-t-on pu déterminer son origine? Comment est-elle arrivée là? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Rebecca Pic et Cyril Marcini, nous parlons d'un emblème de l'archéologie préhistorique, le site de Stonehenge, le cercle de pierre néolithique le plus étudié de Grande-Bretagne. On vient de voir que ce site a été occupé dès le 7000 ans avant notre ère, que sa phase principale de construction date de 2500 avant notre époque. Alors, qui a construit ce monument? Au fil des millénaires, cette construction a été attribuée aux Romains, aux Vikings, aux Druides, hein, même à Merlin, le magicien du roi Arthur. Rebecca Pic, qui sont les bâtisseurs de ce site?
Alors,
ce ne sont pas les druides.
Alors, je pense que ce ne sont pas des druides et je pense que non plus, ce n'est pas Merlin non plus, tout seul, parce que ça aussi, ça a été écrit. Ce sont des communautés qui habitaient autour du monument, mais également des communautés qui venaient d'ailleurs. Et ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Il y a un site à côté de Stonehenge qui s'appelle Durrington Walls. C'est à 3 km de Stonehenge. C'est un très grand site d'habitat de la fin du Néolithique. Et sur ce site d'habitat, on pense qu'on a accueilli des bâtisseurs de Stonehenge.
Cyril Marcini, sur les bâtisseurs de Stonehenge.
Oui, donc du Rickton Wool, c'est un des sites qui permet justement de parler des bâtisseurs. En effet, c'est un énorme henge gigantesque qui a une petite avenue aussi, qui mène aussi sur la rivière Avon, donc il y a un petit accès sur la rivière qui est du même type que celui de Stonehenge. Et des fouilles très ponctuelles ont été faites qui ont montré des bâtiments très standardisés, des petits bâtiments quadrangulaires qui, si on estime sur l'ensemble de la surface, fait des centaines et des centaines d'habitations. Autour de ces habitations, on a beaucoup de vie puisqu'on a énormément de rejets de, osseux. Voilà, il y a eu de la consommation sur place. Hein, et on pense que ça peut être les bâtisseurs de Stonehenge qui étaient sur Durrington à une époque qu'on n'évalue pas tout à fait pour l'instant, mais qui correspond là encore à la fin du troisième millénaire.
Mmh. Par rapport à ces bâtisseurs, justement, et cette fameuse dalle, elle est d'apparence couchée, mais est-ce qu'elle ne fut pas autrefois debout ?
Bah ça, on peut pas trop le savoir, parce qu'en fait, malheureusement, il y a des trilithes qui sont tombés dessus. On voit même pas l'épaisseur entière de l'hôtel, hein, il est enfoncé dans le sol. Hein. Donc on l'évalue à 6 tonnes, mais ça se trouve c'est un petit peu plus. Hein. Par contre, c'est une pierre qui est un peu différente des autres. Même sa couleur est légèrement différente, donc c'est voilà, elle a un intérêt particulier.
Elle est différente des autres aussi pour son origine. Rebecca Pick, il y a cette étude donc, qui vient de paraître dans Nature, hein, cette pierre d'hôtel. Elle est donc un peu enfouie, comme on le dit, elle fait environ 6 tonnes, et elle provient, selon les auteurs de cette étude, du nord de l'Écosse, du bassin des Orcades, à près de 800 km. Il faut bien se rendre compte qu'on est à l'autre bout de l'Angleterre, en fait.
Ah oui, tout à fait, on est vraiment à l'autre bout de l'Angleterre, et au même... On n'est même plus en Angleterre, on est en Écosse, hein, donc on n'est même pas dans le même pays. Hein. C'est-à-dire, oui, 800 km. Donc 800 km pour nous aujourd'hui, c'est facile. Mais à l'époque de la construction de Stonehenge, ce n'était pas facile du tout. Et en plus, pour transporter une pierre aussi grande et aussi lourde, encore plus difficile. Faut imaginer que le nord-est de l'Écosse est une partie de l'Écosse sur la côte d'où on voit les îles Orkney, donc où il y avait des habitats néolithiques très connus. Et elle est séparée déjà pour aller vers le sud. Il faut passer déjà plusieurs chaînes de montagnes. Donc, il y a déjà The Grampians. Après, on descend un petit peu plus bas, il y a d'autres montagnes. Et donc, un voyage qui a dû être épique pour faire venir cette pierre jusqu'à Stonehenge.
Mais Cyril Marcini, cette origine écossaise de cette dalle, est-ce que ces résultats, c'est quelque chose de surprenant ?
Alors, c'est surprenant parce qu'on s'y attendait pas, forcément. Après, c'est très intéressant. Alors d'abord, parce que les Orcades, moi je prononce ça à la française, les Orcades, en fait, ont une tradition mégalithique, encore à cette époque-là. Donc, pourquoi pas avoir des gens qui viennent des Orcades pour aider à construire Stonehenge. Ça, c'est une hypothèse qui n'a pas été formulée, mais voilà, qui pourrait être recevable. Et surtout, les résultats viennent compléter des observations qui ont été faites il y a déjà 2-3 ans, peut-être que Rebecca sera plus précise sur moi là-dessus, qui montraient qu'il y avait des animaux consommés à Durrington justement, qui provenait d'Écosse et qui provenait de cette partie de l'Écosse. Donc voilà, il y a tout un faisceau d'éléments qui se mettent maintenant en place pour montrer cette connexion à large échelle spatiale.
Alors comment déterminer l'empreinte digitale d'une roche ? Pour déterminer l'âge et l'origine du bloc de grès qui constitue la pierre de l'hôtel, les chercheurs de cette étude ont utilisé une méthode de datation géologique, celle de l'analyse de minéraux très anciens, et on en parle avec vous Céline Lausanne, bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes allée dans les collections de minéralogie du Muséum National d'Histoire Naturelle pour comprendre comment fonctionne cette méthode.
Oui, auprès du géologue Pierre Sanjoff, qui est responsable des collections de minéralogie et géologie, il m'a emmené au cœur du bâtiment historique qui recèle plus de 600 000 échantillons de roches. Au-delà de la conservation, on y fait aussi de la datation et de l'analyse chimique pour déterminer leur origine. Et en ce qui concerne la pierre de l'hôtel, il m'a expliqué la méthode radiochronologique employée à partir du zircon, véritable traceur temporel.
C'est un bâtiment assez remarquable parce qu'il conserve, entre autres, on y conserve les retours des grandes expéditions naturalistes, mais aussi les retours des premières grandes explorations des carrières ou des mines anciennes. Donc on a tout un tas de roches qui sont en lien avec des carrières en exploitation ou qui ne sont plus en exploitation déjà depuis très longtemps. C'est une collection assez importante dans le sens où on parle de 12 000 tiroirs, à peu près 600 000 à 700 000 roches.
Allez, on rentre.
Ouais, moi, je travaille à la base sur les anciennes traces de vie sur Terre, les plus anciennes traces de vie sur Terre. J'essaie de trouver quand et comment la vie est apparue sur Terre, quels sont les plus anciens indicateurs de traces de vie que l'on peut avoir sur Terre. Quand on a des roches sédimentaires, on considère que ce sont les archives de notre planète. C'est un véritable livre où on aurait, par exemple, des chapitres, parce que maintenant, on peut dater exactement grâce à la radiochronologie. Donc, on a vraiment les numéros des chapitres et le positionnement dans ce grand livre de l'histoire de la planète.
On connaît très populairement la datation au carbone 14, mais qui est limitée dans le temps à environ 50 000 ans, qui concerne tous les fossiles.
Oui, exactement. Alors le principe, il est simple, hein, c'est qu'on produit du carbone 14 à partir de l'azote, et ce carbone 14 est utilisé par tous les organismes vivants qui font de la photosynthèse. Et donc nous, on en a du carbone 14 dans nous, mais quand on va mourir, on va arrêter cet apport de carbone 14 dans nous. Donc imaginons qu'on a une centaine d'isotopes carbone 14 dans nous, et ben au bout d'un peu plus de 5000 ans, on n'en aura plus 100, on n'en aura plus que 50. Et 5000 ans après, on n'en aura plus 50, on n'aura plus que 25. On parle de période de demi-vie, car ce carbone 14 revient sous forme de carbone 12 avec une période de demi-vie d'environ 5300 ans. Donc on remonte à 53 000 ans, 55 000 ans en fonction des différents engins. Mais on a différentes couples de désintégration. Il n'y a pas que le carbone 14. Hein. On a l'uranium thorium, l'uranium plomb. Et tous ces couples d'isotopes radioactifs ont des constantes de désintégration, de durée de demi-vie différentes. Pour d'autres couples, on a de l'ordre du million d'années, voire du milliard d'années. Donc on arrive à dater des choses qui datent de quelques milliards d'années avec une très grande précision. Et ça, c'est ce qu'ont réussi à faire les scientifiques qui ont fait l'étude de Stonehenge récemment. Ils ont été encore plus loin, c'est qu'ils n'ont pas daté la roche en général, mais ils ont daté des minéraux spécifiques de cette roche.
On parlait de zircon, de rutile, d'apatite, qui ont une origine à plusieurs milliards d'années, presque post-formation de la Terre.
Oui, alors ce qu'il y a à Stonehenge, ce sont des sandstones, c'est des grès communément appelés en français des grès, et c'est un mélange de particules détritiques. Donc c'est comme un cumulat de beaucoup de minéraux qui proviennent de régions différentes. C'est un peu ce qu'ils ont fait à Stonehenge, ils ont regardé de quel bassin versant provenaient les différents minéraux du grès de Stonehenge, et ils ont daté ces différents minéraux pour savoir l'âge des cratons. Ce sont ces vieilles structures rocheuses qui ont été préservées. Et ils ont retrouvé non seulement des roches relativement vieilles, mais aussi des plus récentes et un mélange entre les deux, au néoprotérozoïque et protérozoïque. Et un des seuls cratons en Angleterre, eh ben, il est dans le nord de l'Écosse.
Moi, je vous emmène là dans les réserves. Ça, ce sont les réserves historiques du muséum. Hein,
dont
vous disiez tout à l'heure, ce sont des tiroirs du 19e siècle. Hein. Chaîne en bois du 19e, et à l'intérieur vous avez toute la collection qu'on appelle collection géographique, qui s'est classée par pays. Donc on voit URSS, Pologne, Finlande, Norvège. Et là, quand on est au milieu de cette grande galerie qu'on appelle la salle des colonnes, la nef, eh bien on est dans un endroit où on a les roches de toute la surface de la planète autour de nous dans un rayon de 50 mètres. Ce sont des réserves qu'on appelle des sous-marins parce que justement c'est assez étroit, très allongé. Et sur 50 mètres de long, on a des murs plaqués de ces tiroirs en chêne.
Et on retrouve tous les outils d'un géologue au niveau optique.
Alors, on retrouve la première étape de caractérisation des roches, disons justement.
Observation.
C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir dans les réserves des appareils qui permettent d'aller à l'analyse fine et chimique, microscopique. Alors, on a un microscope, on a une loupe binoculaire et un microscope. Et quand on caractérise une roche, effectivement, on commence toujours par la description macroscopique. On regarde la taille des cristaux, la couleur des cristaux, les reliefs, le type de clivage. Ça nous permet de caractériser l'association et les minéraux qu'il y a au sein de cette roche.
Donc, il faut un échantillon significatif.
Alors, il faut un échantillon significatif. En général, il faut un échantillon de la taille d'un point.
Ah oui, quand même.
Ouais, c'est pas mal parce que ça nous permet de couper la roche et de la polir. Et quand on coupe et on polie, on a tout de suite une surface beaucoup plus intéressante pour l'observation. Vous voyez ici, vous avez une roche qui n'est pas coupée ni polie. Mmh. Et vous avez ici, vous voyez,
oui,
le polissage. On arrive à faire apparaître beaucoup plus d'informations quand on regarde à une loupe binoculaire ou à un microscope. Ensuite, on peut en faire une lame mince d'épaisseur de 30 micromètres qui permet de regarder ces minéraux en utilisant un microscope polarisant par transmission. Donc là, la lumière passe à travers la roche, à travers les différents minéraux. À partir de là, on arrive à vraiment avoir une bonne idée de quel type de roche on a et à séparer un granit rouge de Bretagne d'un granit rouge d'Égypte, par exemple.
Dès ce stade, on peut faire des matchs.
On ajoute à cette description macroscopique et microscopique des analyses qui peuvent être chimiques ou isotopiques. Donc on regarde la teneur, par exemple, en silicium, en titane, en potassium de ces différentes roches et on les compare.
Faut les broyer. En solution.
Ouais, c'est souvent destructif. Alors on a des méthodes qui ne sont pas destructives maintenant, des pistolets à rayon X. Et ensuite, on peut aller encore beaucoup plus loin en datant. Alors soit on date le bulk roche, donc c'est la roche totale, on prend la poudre en général, soit on va faire de l'ablation laser et regarder des minéraux particulier. Ou alors on fait de la séparation minérale, on extrait tous les rutiles, tous les zircons de la roche et on va les dater. Et ça, ça va nous donner une idée de l'âge du craton, donc de bassin versant, qui a drainé une rivière. Et puis les sédiments se sont formés au bout de cette rivière, hein. C'est comme les grès de Stonehenge. Et là, une fois qu'on a tout ça, effectivement, l'argument est très solide pour avoir comme une carte d'identité de la roche qui est assez unique. C'est un peu comme un être humain, on est tous des humains, donc on est tous pareils, mais on a tous vraiment quelque chose d'un peu différent. Là, avec la roche, exactement. Là, avec la roche, on arrive à faire ça maintenant avec toutes ces informations chimiques et microscopiques.
Merci Céline Lozen pour votre reportage. Rebecca Pic, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Je pense que le reportage a vraiment très très bien expliqué le procédé. En fait, on savait que la pierre d'autel était différente. On pensait tout d'abord que cette pierre est venue comme les Blue Stones du sud-ouest des Pays de Galles. Et finalement, c'est en faisant des recherches beaucoup plus poussées qu'on s'est rendu compte qu'elle venait d'ailleurs, donc elle venait de l'Écosse. Et donc, en effet, c'est tout un procédé qu'on met en place pour rechercher l'origine de cette roche. Donc tout d'abord, on va la regarder, elle est différente, on va regarder sa structure, on va regarder sa composition minéralogique, et puis après, on va la dater. Et donc, on va utiliser tous ces éléments et les comparer par rapport à une référentielle. Et c'est à partir de ce référentiel et ces comparaisons qu'ils ont donc retrouvé que la pierre d'autel venait de l'Écosse.
Cyril Marcigny, voilà cette datation et l'analyse chimique de minuscules cristaux de zircon, c'est un peu comme trouver une empreinte digitale.
Ouais, c'est ça, c'est de la signature chimique, minéralogique, hein, qui permet d'avoir l'ADN de la pierre, si on peut utiliser ce terme-là pour une pierre. Et c'est le travail fait par ces chercheurs australiens semble vraiment très très robuste, hein. Donc il y a peu de doutes. Il y a d'autres régions qui auraient pu postuler à ce type de datation et à ce type d'assemblage pour ce grès, en Bretagne, dans la Hague, dans le nord de la Normandie. Mais les signatures sont différentes, donc les orcades, c'est le bon client, visiblement.
C'est comme ça qu'on est certain et sûr que cette pierre de l'autel ne peut provenir que d'Écosse.
On est quasiment sûr à 100% que ça vient d'Écosse.
Rebecca Pic.
Et surtout qu'il fallait aussi que ça venait d'un gisement qui était accessible. C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir accéder à cette pierre et puis l'extraire. Donc ça aussi, ça rétrécit le nombre de candidats, en fait, pour l'origine de cette pierre.
Ouais, il ne fallait pas une pierre de carrière, il fallait une pierre qui affleure.
Voilà, c'est ça.
Rebecca Pic, d'ailleurs, par rapport à ces analyses isotopiques, c'est quand même un domaine de recherche qui s'est bien développé en archéologie.
Tout à fait, les analyses isotopiques, c'est vraiment une voie de recherche qui est extrêmement intéressante pour l'archéologie. On avait parlé tout à l'heure des animaux qui ont été consommés à Durrington Wells. Et justement, Cyril nous a parlé du fait qu'il y avait certains animaux qui venaient d'ailleurs. Et en effet, c'est vrai. On utilise les analyses isotopiques du strontium cette fois-ci, donc pas les zircons, strontium, pour déterminer l'origine de certains vivants. Le strontium se trouve dans la roche. Elle est absorbée à partir de l'eau par des êtres vivants, les plantes et des animaux. Et donc, c'est une signature isotopique qui nous permet parfois de connaître l'origine d'un être vivant.
Et ce strontium, justement, on l'a retrouvé hein, dans le cas de l'archer d'Amesbury, qui est justement une sépulture sur le lieu de Stonehenge, et qui est donc un individu qui vient de Suisse et qu'on a réussi à découvrir grâce à ses analyses isotopiques.
Oui, tout à fait. C'est une sépulture, une inhumation d'un individu, d'un homme, qui a été trouvé à quelques kilomètres de Stonehenge, vraiment très très proche à Amesbury. Et donc, les analyses isotopiques, pareil, du strontium, ont déterminé que ce personnage pouvait provenir des Alpes. Donc, une signature qui est complètement différente des personnes et des animaux donc autour de Stonehenge.
Cyril Marcigny.
Oui, l'archer d'Amesbury, c'est quelque chose de... C'est un personnage très important et très intéressant autour de Stonehenge. D'abord parce qu'il vient de loin, mais il a un amoncellement de mobilier dans sa tombe qui est aussi unique en Europe. C'est un personnage qui devait être important à l'époque. Son mobilier raconte aussi une histoire. Il a des poignards qui viennent plutôt de France, dont les cuivres ont été traités dans le sud de la France, du mobilier qui vient d'Angleterre. Enfin, voilà, donc c'est quelqu'un qui a une histoire. On arrive à restituer son voyage, c'est quelque chose d'assez important pour l'âge du bronze, les gens qui se promènent un peu partout en Europe. Et en plus, à côté de cette tombe, il y en avait une deuxième, d'un individu plus jeune, qui est en filiation directe avec cet individu. Mais le jeune, lui, par contre, est né à Stonehenge. Donc, c'est des gens qui se déplacent au troisième millénaire et qui restent sur place et qui fondent des dynasties, entre guillemets, en tout cas, qui prennent la main sur des territoires autour de ce troisième millénaire.
Voilà, donc entre l'archer d'Amesbury, les animaux consommés en festin qui viennent de loin, la pierre de l'autel n'est pas le premier artefact de Stonehenge qui a des liens avec le Nord, mais que nous raconte-t-elle des échanges et des connexions dans l'Angleterre du Néolithique ? Restez à l'écoute. De The Stonehenge Men en direct sur France Culture, car nous parlons de Stonehenge, le cercle de pierre néolithique le plus impressionnant de la civilisation des mégalithes. On en parle avec nos deux invités du jour, Rebecca Pic, archéologue et chercheur à l'INRAP, spécialiste de l'âge du bronze et du premier âge du fer, et Cyril Marcini, archéologue chercheur à l'INRAP, spécialiste de l'âge du bronze. On vient de parler de cette nouvelle recherche parue dans Nature qui met en évidence l'origine écossaise d'une partie de Stonehenge. On a vu, on l'a commencé à évoquer en première partie d'émission, qu'avant d'analyser cette pierre centrale, on sait qu'il y a des contacts avec l'Écosse. On peut encore continuer à parler de ces différents échanges et de ces différentes traces, Rebecca Pic.
Oui, il y a des traces de partout. Ce qui est... Nous, les archéologues, on va étudier des objets. Alors, il y a des objets qui sont fabriqués localement, il y a des objets qui sont fabriqués ailleurs, les objets exotiques. Et donc, savoir d'où venaient ces objets. Il y a certains objets qu'on sait qui viennent d'ailleurs. Par exemple, à la fin du Néolithique, au début de l'âge du bronze, nous avons de l'ambre. L'ambre, on sait les gisements d'ambre se trouvent dans le Baltique. Donc, très, très loin. Donc, ces objets ont été transportés par des personnes du Baltique jusque où on les retrouve. On les retrouve dans le sud de l'Angleterre, on va les retrouver en France, on les trouve partout en Europe. Donc, cette notion de interconnectivité, finalement, c'est une notion qui est très, très importante déjà aux campaniformes et à l'âge du bronze.
Oui, pour vous, en fait, ce qui est très intéressant avec cette nouvelle découverte, l'origine de la pierre centrale, c'est que ça montre encore plus l'interconnectivité de ce lieu-là.
Tout à fait, parce qu'on savait déjà que Stonehenge, il y avait un lien direct entre Stonehenge et le Pays de Galles. Mais là, en plus, on a ce lien maintenant entre Stonehenge et l'Écosse. Donc, ça montre bien que il y avait des personnes qui voyageaient sur toutes les îles britanniques, sur toute l'Europe. Et ça, c'est une notion que qui commence, bon, qu'on commence vraiment à discuter, à avoir des discussions sur cette mobilité des personnes, cette mobilité des objets.
On a donc en effet l'ambre qui vient des Baltiques, le verre aussi est fabriqué soit en Égypte ou au nord de l'Italie.
Tout à fait, on retrouve à l'âge du bronze, mais là on est un petit peu plus récent, donc à la fin de l'âge du bronze, on va retrouver par exemple des perles en verre dans les sépultures. Et ce sont des tout petites perles en verre bleu, mais vraiment tout petit, quelques millimètres de diamètre. Et ces perles ont été fabriquées pour la plupart au nord de l'Italie, sont ainsi qui s'appellent Fraticina. Et donc, pareil, ces perles ont été acheminées de Fraticina, nord de l'Italie, jusqu'en France, jusqu'en Grande-Bretagne.
Cyril Marcini.
Oui, en fait, l'âge du bronze, sa spécificité, c'est ça. En fait, on est sur un changement de paradigme par rapport au néolithique. Au néolithique, on est à petite échelle. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des matériaux très loin. On les a sur place, le silex en particulier. À partir du moment où on va rentrer dans les cultures qui vont pratiquer de la métallurgie, il va falloir aller chercher des matériaux loin, du cuivre, de l'étain pour faire du bronze, ou du cuivre uniquement pour la période de l'âge du cuivre. Et donc, il va falloir rencontrer ses voisins et créer de la connectivité à très très large échelle. Et c'est vraiment cette union économique de l'Europe avant l'heure qui va vraiment être l'amorce de l'âge du bronze. Et ça apparaît à la fin du troisième millénaire, au moment où on voit apparaître Stonehenge, au moment où on voit apparaître les sanctuaires en Allemagne, au moment où on voit apparaître des sanctuaires au nord de l'Italie ou au Mont Bégo. Et donc tout ça participe de cette lecture européenne, en fait, de la dynamique et culturelle et sociale de ce qui va devenir l'âge du bronze.
Par rapport justement à cette mobilité des personnes lors de cette période, on est passé peut-être un peu vite sur la sépulture de l'Arche d'Amesbury, Cyril Marcini.
Donc l'Arche d'Amesbury, donc c'est un des personnages du campaniforme. Le campaniforme, Rebecca l'a évoqué assez rapidement, c'est un moment clé un petit peu qui appartient un peu au néolithique et un peu à l'âge du bronze. C'est une phase de transition en fait, où on va voir apparaître dans toute l'Europe, sur quelques centaines d'années, un même type d'assemblage de mobilier avec des poignards en cuivre, des pots en céramique décorés de la même façon, avec une forme très caractéristique en cloche renversée, c'est de là que vient Campana, des brassards d'archer, voilà, un mobilier très typé qu'on va retrouver à large échelle. Et c'est vraiment l'amorce de cette dynamique que j'évoquais tout de suite. Et l'Arche d'Amesbury, c'en est l'incarnation, puisque grâce aux études isotopiques qui ont été faites sur lui, on sait qu'il a accompagné cette mobilité du campaniforme à l'échelle de l'Europe, des Alpes jusque dans le sud de l'Angleterre.
Voilà, on voit des réseaux d'échanges très développés. Cette découverte, Rebecca Pick, ça suggère donc une coopération géopolitique, voire des points communs religieux. Est-ce qu'on a une idée des usages, des fonctions du site de Stonehenge ?
On sait que c'est un site où il y avait des cérémonies, donc un site cérémonial. On peut aussi se poser la question, un site de rencontre, c'est-à-dire qu'un site où différentes communautés se rencontraient à certains moments de l'année pour se voir, mais aussi pour des raisons politiques, économiques, aussi, pourquoi pas, culturelles. C'est-à-dire que c'est un moment un site de rassemblement de communauté. Et ça, c'est une notion qui est très, très importante. Et justement, comme disait Cyril, pour tout ce qui concerne l'économie à cette période, les échanges, il fallait que les gens se connaissent. Et donc, c'est une façon, se rassembler, c'est une façon facile de communiquer, c'est une façon facile de connaître ses voisins ou connaître des personnes de plus loin.
Cyril Marcini.
Oui, c'est tout à fait ce que dit Rebecca. On est vraiment sur un site, parmi d'autres, qui ont pour vocation de rassembler les gens à des moments précis de l'année. D'où le calendrier peut-être solaire de Stonehenge, tout simplement. Voilà, ça permet de savoir quand est-ce qu'il faut rassembler les gens. Et lors de ces rencontres, on va pouvoir échanger avec des voisins proches, des voisins plus lointains, et commencer à tisser des réseaux économiques. Il y a de la diplomatie à cette époque-là, il y en a probablement dès le néolithique. Donc là, tout ça doit se faire lors de rassemblements qui pouvaient se faire autour d'un monument comme Stonehenge.
Oui, ce calendrier solaire, c'est que l'orientation de l'ensemble est choisie en fonction des positions que le soleil retrouve sur l'horizon, assez élevé et couchés chaque année autour des solstices, Rebecca Pick.
Oui, oui, c'est ça. En fait, quand on regarde le monument, en fait, l'alignement des trilithes, donc qui fait une petite arc ou fait un cheval, en fait, s'ouvre directement sur le solstice, donc sur le lever du soleil au moment du solstice d'été. Donc là, et puis donc quand on est à l'intérieur de ce fer à cheval, on voit l'avenue partir donc justement vers cet horizon de lever du soleil. Et ça, c'est quelque chose, c'est très important. Même aujourd'hui, c'est encore extrêmement important. On a vu très récemment encore des images de milliers de personnes qui se rassemblent à Stonehenge pour fêter le solstice d'été. Et c'est encore quelque chose qui est très important dans le calendrier en Grande-Bretagne.
En tout cas, pour parler du statut sacré de Stonehenge, c'est quand même assez compliqué de pouvoir discuter de tout ça, Cyril Marcini, puisque de toute façon, nous n'avons aucune trace écrite.
Non, on est sur des populations et des civilisations qui n'ont pas laissé d'écriture. Hein, ce que je disais en début d'émission, l'écrit le plus ancien, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. On est très loin de la création de Stonehenge, hein, qui date de 3000 ans avant. Hein. Donc voilà, on n'a pas de traces, il faut qu'on se contente, et c'est souvent le boulot de l'archéologue, hein, faut qu'on se contente de ce qu'ils ont laissé, donc des objets qui sont encore en terre, hein, et des différents éléments architecturaux qu'on voit autour. Donc tout ça va raconter une histoire, mais ça demande à être étudié et fouillé.
Rebecca Pick.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que à la fois, notre travail en tant qu'archéologue est évidemment nos recherches sur le terrain et nos études scientifiques. Mais l'objectif de tout ça, c'est que nous racontons une histoire qui est le plus vraie possible à nos yeux de ce qui s'est passé sur les sites archéologiques. Au moment où c'était des sites où les gens vivaient, où les gens pratiquaient une culte, etc. Donc en fait, c'est à nous de donner une image de ce monument à la fin du néolithique et à l'âge du bronze.
Oui, pas décrit, puis c'est aussi pour ça que ça explique aussi le grand nombre de spéculations qu'il y a autour de ce site, Rebecca Pick.
Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Je pense qu'il y a des spéculations pour chaque époque. Hein. Quand on voit que dans les chroniques médiévales et post-médiévales, on parlait donc de Merlin, comment ils construisaient ces sites, qui étaient construits par Merlin, par des géants. Puis après, on parle de druides. Donc en fait, tout ça fait partie du folklore, on va dire, britannique. C'est vraiment, Stonehenge fait vraiment partie de l'histoire de la Grande-Bretagne, tout simplement.
Alors l'autre chapitre romanesque que nous n'avons pas encore abordé ensemble, c'est quel a pu être le voyage épique de cette dalle de Stonehenge. Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, avec Rebecca Pick et Cyril Marcini, nous parlons de ce célèbre site mégalithique du sud-ouest de l'Angleterre, Stonehenge. Nous venons de voir que c'est un monde déjà très connecté à l'époque, par son statut, que le site connecté avec plein d'endroits en Europe, en Grande-Bretagne, ça montre en effet la grande interconnectivité de ce lieu. Question, comment cette dalle de 6 tonnes a pu être déplacée sur une si longue distance, Rebecca Pick? Vous nous avez parlé un peu quand même de des paysages, de la géographie du lieu. Est-ce que cette pierre a pu être transportée via un chemin, via la terre, vers un trek qu'on peut imaginer compliqué avec les montagnes que vous nous avez décrites?
Ah oui, oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on peut donc éliminer la possibilité d'utiliser de la magie, au moins, en tout cas, ça c'est clair. En effet, il faut imaginer donc un voyage de 800 km. Donc sans vraiment de route, en tout cas pas des routes qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, et pas nécessairement non plus une ligne directe du nord au sud. Donc il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus. On va toujours rechercher par voie terrestre, par exemple, les chemins les plus faciles pour transporter ces types de pierres. Il y a donc par la terre, évidemment, mais également par les rivières, par l'eau, mais pourquoi pas aussi par la mer. On pourrait pu imaginer qu'on a embarqué cette pierre sur un bateau et puis qu'on a fait toute la côte entre le nord des Orkneys le nord-est de l'Écosse, jusqu'à, on a suivi toute la côte, jusqu'à arriver sur le sud, sud de l'Angleterre.
Mais c'est le Martini, on pense en effet qu'il y a peut-être eu un transport maritime.
Oui, c'est l'hypothèse qui paraît la plus fiable. Et surtout, on a des bateaux à cette époque-là. Voilà, vous avez fait une émission, je crois, avec Michel Philippe et Vincent Bernard.
Tout à fait.
Ces questions.
Un podcast que je vous invite à écouter qui s'appelle « Les vieux hommes et la mer » sur la navigation.
Les vieux hommes, c'est Vincent Bernard.
Et... Non.
En tout cas, oui, il y avait des bateaux. On en connaît. Hein. On en a fouillé plusieurs. Ben, les collègues anglais, on en a découvert plusieurs sur la côte est de l'Angleterre qui sont datés par d'endroits chronologiques, qui datent vraiment de l'extrême fin du troisième millénaire, début du deuxième. Et c'est des bateaux très complexes, des bateaux assemblés, qui peuvent porter de lourdes charges, de plusieurs tonnes. Donc on a des bateaux qui fonctionnaient, et qui fonctionnaient peut-être déjà avant. Donc on peut très bien imaginer des bateaux de ce type-là, qui, par cabotage, en suivant la côte, sont descendus des Orcades jusqu'au Wessex, hein, en revenant après sur la mer de la Manche. Hein. Mais... c'est déjà un périple, c'est déjà beaucoup. Ça devait être un moment important pour l'ensemble des communautés. Et pourquoi pas être ponctué d'ailleurs de rassemblements ponctuels sur tout le parcours de la côte est jusqu'à la côte sud de l'Angleterre.
Rebecca Pic.
Ouais, c'est un petit peu comme le chemin que fait la flamme olympique. Hein, on peut imaginer donc un même type d'événement. En effet, je pense que c'est un voyage qui était sans doute loin et très longue, et puis pas avec une même équipe. Il faut imaginer quand plusieurs équipes on transporte la pierre jusqu'à un certain endroit, après on le confie à une autre équipe, etc. Donc c'est un petit peu un team building, c'est le processus de faire venir cette pierre est quasiment aussi important de l'ériger dans le monument.
Je me demandais justement pourquoi faire venir des pierres de si loin. Comme la flamme olympique, vous avez l'air de dire, Rebecca Pic.
On ne sait pas. Ça a sans doute été extrêmement important, justement, de faire venir cette pierre du nord-est de l'Écosse. Je pense que ça a une signification qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui était sans doute extrêmement important. Autant d'efforts pour faire venir cette pierre, c'était très important.
Cyril Martini, est-ce qu'on a des hypothèses, justement?
Alors, des hypothèses, on peut en avoir plein, mais en tout cas... Oui, c'est important. Ça va être pour ça facilite moins l'unité du territoire. Voilà, les pays de Galles ont envoyé des pierres, l'Écosse a envoyé des pierres. Il y avait des pierres qui étaient aussi locales. C'est le drapeau de l'Union Jack version caillou. On est complètement là-dessus.
Ouais, voilà, on sait donc, on pense qu'il y a peut-être eu un transport maritime, peut-être par la terre. Enfin, tout ça reste des questions ouvertes. Est-ce que des glaciers auraient pu transporter également cette dalle, Rebecca Pic? Ça aussi, c'est une controverse.
Oui, alors en effet, c'est une hypothèse qui est émise. Le problème, c'est que le sud de l'Angleterre, en tout cas à la dernière glaciation, a priori, la glaciation s'est arrêtée avant Stonehenge, mais bien avant Stonehenge. Donc, il n'est pas sûr que la glaciation aurait pu transporter une pierre un aussi grand et aussi loin. A priori, c'est en effet une hypothèse qui a été évoquée, mais peu probable.
Cyril Martini.
Oui, bon, c'est tout à fait ce que vient de dire Rebecca. On est sur des hypothèses. Il y en aura d'autres qui vont arriver, hein, forcément. Hein. Mais celle-là, visiblement, elle se heurte à plein de problèmes géologiques.
Est-ce qu'on connaît des projets de reconstitution, des moyens de transport ou même de fabrication de ce site, Rebecca Pic?
Alors, j'ai vu récemment sur le site de Butts Farm, donc c'est pas très loin de Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre. C'est un site expérimental d'archéologie où il y a eu une expérimentation juste de transporter un menhir de quelques mètres de haut qui a été fabriqué sur place et érigé à une vingtaine de mètres de son lieu de fabrication. Donc on est vraiment sur une toute petite distance. Et là, donc cette expérimentation qu'on peut regarder sur le site de Butts Farm est très intéressante parce que il a fallu tracter ce menhir, cette très grande pierre, sur des petits rondins en bois, et ça a pris une équipe d'une dizaine d'hommes. Avec des voilà, donc, et beaucoup, beaucoup d'efforts, hein, plusieurs heures.
Oui, il y a eu pas mal d'expérimentations qui ont été faites aussi en France, hein, dès les années 70. Hein. Il y a une dalle de je ne sais plus combien de tonnes qui avait été transportée par 200 personnes en Charente. Hein. Donc voilà, ça, il y a de l'expérimentation, mais on ne connaît pas les techniques de transport véritablement. On les suppose, mais on ne les a pas du tout en tête. Quoi.
L'auteur de cette étude parue dans Nature a écrit, je le cite, « Je pense que nous allons avoir encore de nombreuses surprises en cours de route. » On approche de la fin de cette discussion. Selon vous, quelles surprises peuvent nous attendre? Que reste-t-il à découvrir, Rebecca Pick?
Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur le monument même de Stonehenge. On commence à vraiment connaître les détails de Stonehenge. Par contre, il y a encore énormément de sites archéologiques autour de Stonehenge. Et c'est cet environnement-là qu'on peut encore rechercher. Quels étaient, est-ce qu'il y a des habitats tout proches, des sites funéraires, on les connaît, il y a des sépultures, il y a des monuments funéraires partout autour du site de Stonehenge. Donc il y a encore des choses à découvrir, c'est au moins sur l'environnement proche, au moins sur le paysage autour.
Cyril Marcigny, pour conclure.
Oui, sur le monument, on commence à arriver au bout de plusieurs programmes de recherche, donc on commence à avoir une bonne idée de sa chronologie et de ses hypothèses de fonctionnement. Après, il y a des choses qui sortent encore. Hein. Il y a quelques années, on a travaillé sur le son à l'intérieur de Stonehenge. Lorsqu'on émet des sons à l'intérieur de Stonehenge, les sons ne sortent pas de la couronne de pierre. Donc, il y a des choses encore à découvrir. Et autour, ouais, là, il y a tout un champ d'études qui est complètement aux friches et qui mériterait un travail de longue haleine.
En tout cas, merci à vous deux de nous avoir fait voyager tout au long de cette heure, puisque là, tout de suite, on change de sujet avec la chronique avec science d'Alexandra Delbault, qui aujourd'hui nous parle du langage des chimpanzés. C'est la chronique avec science.
À quel point le langage des chimpanzés ressemble-t-il au nôtre? Dans notre mode de communication, il y a évidemment la parole, mais aussi la gestuelle. Vous ne me voyez pas, chers auditeurs, auditrices, mais à chacune de mes phrases, mon corps tout entier bouge, mes mains surtout, et évidemment mes expressions faciales. Autant d'informations supplémentaires pour faciliter la bonne compréhension de l'interlocuteur. Et c'est l'objectif. En radio, on triche un peu et on joue avec notre voix et on appuie sur certains mots. Cette forme classique de communication, alliant gestes des paroles, est désormais bien comprise dans notre espèce. Mais quand et comment a-t-elle évolué? Pour répondre à cette question, cela fait quelques années qu'on s'intéresse à la communication de nos plus proches cousins, les grands singes. Catherine Obeiter est primatologue, professeure à l'université de Saint-Andrews en Écosse et dernière autrice de cette étude parue dans Current Biology.
Il y a 15 ans, 20 ans, qu'on a compris que vraiment le système gestuel, les gestes des grands singes, c'est essentiel pour toutes les grands singes. Alors, ce qu'on a compris, c'est qu'ils ont des répertoires énormes, c'est-à-dire peut-être 100, même 140 gestes pour communiquer. Oui, c'est tous les petits besoins, c'est venir ici, casse-toi, donne-moi ça, est-ce qu'on va là-bas? Et ils l'utilisent toute la longueur de la journée pour tout ce qu'il faut. Et les conversations, les échanges, les demandes, tous les trucs sociaux là, en fait, chez les chimpanzés, chez les gorilles, ça se passe dans leurs gestes et c'est leur voix où ça donne plutôt l'émotion ou ce genre de choses. Alors, il y a eu un petit changement entre les humains et nos cousins les plus proches, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, dans la manière de communiquer, c'est-à-dire soit avec la voix, soit avec les mains. Mais les idées qu'on veut communiquer avec ces systèmes sont très similaires.
Malgré davantage de paroles chez nous et plus de gestes chez eux, cela reste des modes de communication assez semblables. Mais donc, jusqu'à quel point? Cela fait 20 ans que la communication gestuelle des primates est scrutée et comparée à celle des humains. Les scientifiques ont regardé les formes des gestes, avec les mains, les bras ou même les jambes. Le sens des gestes également, mais il manquait quelque chose, le timing. Le timing, c'est essentiel dans une conversation quand on est en face à face. Faites l'expérience dans la journée, juste au moment où vous finissez votre phrase, votre interlocuteur prend le relais. Un laps de temps très court s'écoule car il n'a pas besoin du dernier mot de votre phrase pour en comprendre le sens. Et ça passe notamment par les gestes ou le ton de la voix. Et ce temps a été mesuré chez l'humain. Il fait 200 millisecondes. C'est presque imperceptible. Et toutes les langues présentent à peu près le même laps de temps. Les Japonais sont un petit peu plus rapides. Ils répondent en seulement 7 millisecondes. Et les Danois sont un petit peu plus lents avec 470 millisecondes. C'est donc ce timing de conversation qui a été mesuré dans cette nouvelle étude, c'est-à-dire le temps que mettent les chimpanzés de 5 régions d'Afrique pour répondre à leur interlocuteur avec leurs gestes. Et résultat, même laps de temps autour de 200 millisecondes. Donc la structure des conversations est identique entre nos deux espèces.
On attendait un petit peu à trouver qu'il y aura des similarités entre les gestes, les conversations gestuelles entre les grands sages et les conversations vocales, verbales entre les humains, parce que nous sommes de toute façon très prochement liés comme espèce. Et on anticipait qu'en regardant les différents groupes de chimpanzés, qu'on trouverait peut-être une structure en commun. Et c'est ça qu'on a trouvé. Ce qu'on anticipait pas, c'était que la structure sera exactement la même structure que chez nous, c'est-à-dire qu'à peu près 200 millisecondes, très très vite, entre les parties. C'est-à-dire que si moi je fais des gestes ou si moi je parle, la réponse vient très très vite de l'autre personne. Et on a trouvé que toutes les chimpanzés et tous les humains ont la même structure en commun, c'est-à-dire 200 millisecondes à peu près. Chez les humains, il y a aussi des petite variation culturelle. Et on n'anticipait pas du tout, mais on a trouvé exactement la même chose chez les chimpanzés. Il y a les communautés de chimpanzés qui sont un petit peu plus longs et des communautés qui sont un petit peu plus rapides.
Au nord-ouest de l'Ouganda, les chimpanzés de la communauté Budongo sont un peu comme nos Danois, un peu plus lents dans leur échange, alors que ceux de Kalinzou sont les plus rapides. Il y a donc une structure universelle avec de petites variations, ce qui pourrait constituer les premiers indices d'une potentielle langue et donc culture. Reste à étudier les autres communautés de chimpanzés. Il y en a 26, dont les gestes sont déjà bien répertoriés, mais il y en a encore plus en réalité, pour déterminer s'il existe véritablement des langues spécifiques ou même des dialectes chez cette espèce.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Céline Lozen, Ève Etienne, Ali Ruyère-Thompson, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Élise Leu. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.